page 12 et 13, toujours dans la rubrique, France, combat social, un grand article donc de la rédaction de Nouvelle Solidarité, dont le titre est « Régression inédite de l'éducation, à qui profite le crime ?» En introduction. Dans un dossier à paraître prochainement, Solidarité et Progrès montrera comment plusieurs institutions supranationales, l'OCDE en tête, sont en train de réformer les systèmes éducatifs sans aucun débat politique. Non pour libérer, entre guillemets, les forces vives de la nation. Hélas, mais plutôt pour maintenir le peuple dans une dépendance servile, reflétant le pouvoir de ceux qui savent sur ceux qui ne savent pas. Depuis qu'il est apparu sur Terre, l'homme ne cesse de découvrir. Seul l'être humain est capable de comprendre, soutenait Lyndon LaRouche. Encore faut-il pouvoir apprendre à comprendre. Le rôle de l'éducation publique est de cultiver le potentiel inné de pouvoir comprendre. Enjeu déterminant dans la mesure où toute augmentation de la puissance de comprendre engendre une augmentation de la puissance d'agir, qui elle-même augmente la puissance d'affirmer son être. Citation de Spinoza. Ceci dit, les grandes avancées de l'histoire humaine ont toujours été, entre solidarité et progrès, le fruit de découvertes et de partages. Avec, pour les premiers de cordée, entre guillemets, le souci d'éduquer l'autre comme ils l'ont été eux-mêmes, en l'encourageant à aller plus loin encore. Dans cet élan, l'éducation nous rend aptes à communiquer et recevoir des idées importantes concernant l'homme et la nature. Citation de Shelley. Entre le simple apprentissage de tâches données et la connaissance véritable, il y a ce qui sépare le dressage de l'éducation. Premier chapitre. Inversion des valeurs. L'instruction publique a ainsi toujours été un enjeu clé. Veut-on libérer les forces vives de la nation en donnant accès à chacun, à part égale, à la connaissance et au perfectionnement ? Ou au contraire, désire-t-on maintenir le peuple, entre guillemets, dans une dépendance servile, reflétant le pouvoir de ceux qui savent sur ceux qui ne savent pas ? En effet, l'avancée des connaissances, la compréhension des forces à l'œuvre dans l'univers, n'ont de sens qu'au service de nos frères humains, afin qu'elles soient partagées et mises en œuvre pour le bien du plus grand nombre. Si, dans l'histoire, les États-nations dignes de ce nom se sont développées en défense de ceux qui ne peuvent se défendre, la veuve et l'orphelin, selon l'expression consacrée, l'éducation de tous, en particulier du plus faible, se doit d'être le fondement du ferment national. La question sociale, entre guillemets toujours posée, jamais résolue, selon l'expression du général de Gaulle alors qu'il arrivait à la fin de son combat politique, exigera une réponse tant que chaque homme ne trouvera pas dans la société sa part, sa place, sa part et sa dignité. Depuis sa disparition, une part croissante de la population se voit rattrapée par les prédations d'un capitalisme dévoyé, mettant en péril la vie des plus faibles. Dans ce capitalisme totalitaire, les progrès de la connaissance sont à contrario utilisés contre notre humanité. Les intérêts financiers à l'origine de la globalisation s'efforcent de s'approprier la puissance qui en découle, pour s'imposer militairement, contrôler les données, l'information, le comportement de tout un chacun, jusqu'à sa façon même de penser. L'idée que certains puissent remettre en cause le monde unipolaire globalisé qu'ils cherchent à défendre et pérenniser leur est insupportable. On l'a vu dans la réaction apeurée au mouvement des Gilets jaunes, manants incultes qui s'emparent d'une parole qu'on ne leur a pas donnée. Quant à la jeunesse qui cherche naturellement à bâtir un monde plus humain et plus juste, elle est perçue comme une menace invisible et sourde. On lui offre des causes échappatoires, la lutte contre le changement climatique et autres revendications sociétales venant envahir l'école, tout en veillant à ce que la moindre velléité de penser, hors de la doxa écolo-financière, soit immédiatement remise au pas. Pour parer à ces craintes existentielles, l'oligarchie actuellement aux manettes se fait fort d'intégrer l'éducation dans le train fou du système financier libéral. Les élèves étudiants sont poussés à se transformer en individus points, entre guillemets, particules dans un mouvement brownien guidé par le hasard. Censés abandonner toute recherche de la vérité, ils sont individuellement, peu importe le monde alentour, incités à maximiser leur succès, plaisir, profit, et à minimiser leur échec, douleur, pauvreté. Le sort de chacun est conçu comme indépendant des autres. Je cite « Ne faut-il pas veiller à ton employabilité, avoir le souci de ta carrière dans un monde toujours plus complexe et changeant ? Lui rabâche-t-on ? Reste flexible, saisis l'opportunité qui passe, sois performant aux tests et autres évaluations auxquelles tu devras te soumettre. » Tout centré sur l'individu plutôt que sur la communauté éducative, cette tendance est en passe de détruire l'école. Pris comme un individu autonome, non relié, l'élève consommateur est invité à faire jouer la concurrence qui touche tous les pans du système éducatif. Concurrence entre système privé et public, entre cours en classe et rattrapage payant à la maison, entre établissements qui cherchent à se placer en tête des classements, entre élèves auxquels on a bien fait comprendre que les personnels de l'éducation nationale sont des offreurs de services à leur disposition pour leur succès, quel que soit par ailleurs le travail fourni par les 10 élèves. Nouveau chapitre, comprendre pour agir. Ce document, conçu comme un outil militant, s'attachera à montrer comment plusieurs institutions supranationales, l'OCDE en tête, sont en train de remodeler la plupart des systèmes éducatifs, proposant des réformes entre guillemets pédagogiques, présentées comme allant de soi, sans matière à débat politique. Que l'on ne s'y trompe pas, les experts auprès de l'OCDE, à l'origine de ces réformes, ne sont que des courroies de transmission des milieux d'affaires impatients de profiter de ces juteux budgets consacrés à l'éducation dans le monde. Nous verrons à quel point la pédagogicomania ambiante n'a rien à voir avec la pédagogie, mais tout à voir avec la maximisation des placements financiers, cette fois-ci à travers la manne éducative. Des études de cas concrètes amèneront à comprendre. Premièrement, comment l'éducation nationale travaille avec les lobbies d'entreprise. Deuxièmement, comment le souci d'adapter la pensée et le comportement des jeunes aux attentes du monde économique a abouti à des enseignements déstructurés, purement utilitaires, au terme desquels l'élève étudiant est renvoyé à l'application de modes opératoires dont il ne connaît pas les tenants et aboutissants. Tout cela au détriment de ses capacités à comprendre un texte, à effectuer ne serait-ce que des calculs de base, à rédiger une réponse, sans même parler d'une orthographe en déshérence. Troisièmement, donc, à comprendre comment l'apprentissage des contenus a été en grande partie abandonné sous prétexte que la découverte ne peut être faite que par l'élève lui-même, toute transmission, en particulier par le professeur, étant vue comme l'imposition d'une vision arbitraire, ou comment la société de la connaissance, leitmotiv de l'orientation européenne depuis le traité de Lisbonne, s'avère être une société de l'ignorance élevée en vertu cardinale et dans quelles conditions elle voit son aboutissement dans le cancel culture. Quatrièmement, amèneront aussi à comprendre comment, selon les théories actuelles de l'information, l'ensemble du savoir est borné par une vision mécaniste, notre cerveau étant assimilé à un ordinateur qui gère des données recueillies à travers des opérations de communication. Et cinquièmement, donc, ces études de cas concrètes dans le dossier amèneront à comprendre comment de plus en plus de pédagogues nient l'existence d'une vérité connaissable, en postulant que toute opinion, aussi farfelue soit-elle, puisse faire autorité. On l'aura compris, il faut absolument stopper la stratégie actuelle consistant à abaisser les exigences culturelles de l'école au niveau de la capacité à réaliser un PowerPoint sur un sujet qu'on ne connaît pas. Il appartient à toute société de s'élever aux exigences émancipatrices de l'école. La société devant, entre guillemets, être faite pour l'école et non l'école pour la société, comme le répétait non sans ironie Gaston Bachelard. Je cite encore, « Lire à l'intérieur des choses, voir au-delà des apparences, pressentir la beauté, la bonté, l'offrande qu'est pour nous la création, voilà l'intelligence. » Fin de citation. Une intelligence qui ne demande qu'à s'éveiller, constate l'éducatrice Rose-Marie Micot, au point où, je cite, « L'enfant n'a qu'une envie, s'il a eu de bons maîtres dans le primaire, c'est de nourrir son être dans les bons professeurs, dans le secondaire et au-delà notamment. » Sommes-nous encore capables d'inviter l'enfant à la découverte de l'homme et de l'univers? Sommes-nous prêts à garantir son bonheur de grandir? La réponse vous appartient, après en avoir pesé les enjeux exposés dans notre dossier. Point final. Avec pour illustration de cet article une photo de professeur de premier gilet jaune contre la réforme scolaire en 2013, où l'on voit des professeurs arborer des pancartes « Payons, range ton brouillon », une réforme bâclée, des enfants fatigués. Avec des femmes principalement et des enfants qui défilent. En exergue, deux exergues en page 12, l'éducation de tous, en particulier du plus faible, se doit d'être le fondement du ferment national. Et une deuxième exergue en page 13, cultiver le potentiel inné de pouvoir comprendre. Avec en bas de page, en savoir plus sur solidaritéetprogrès.fr, émanciper l'esprit humain, notre dossier. Fin de la page 12 et 13.